un propos sur la décroissance urbaine. Juste pour vous présenter rapidement, et puis comme ça j'abrège et on peut gagner du temps. Donc Marie-Christine Morel, vous êtes maître de conférence en géographie.
Il faut que vous m'appelez Christelle.
Christ...
Parce qu'il y a Marie-Christine Fourny
ou Marie-Christine Jaillet, c'est pas moi. Ouais, je suis désolée. Christelle Morel-Journel, vous êtes donc maîtresse de conférence en géographie aménagement à la Faculté de sciences humaines de l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne, et également chercheur à l'EVS-ISM de l'UMR-CNRS. Et donc vos recherches portent essentiellement sur les stratégies de développement des villes industrielles, les transformations des outils et des politiques d'aménagement urbain et des processus de dévalorisation urbaine, territoriale. Et Valérie Salapala, quant à vous, vous êtes professeure des universités en sciences politiques à l'Université de Saint-Étienne, et vos recherches portent essentiellement sur la composition des politiques publiques, la sociologie de l'ethnicité et des discriminations, et les politiques de logement et de peuplement, notamment dans un cadre, des villes en décroissance. Et en commun avec d'autres chercheurs, vous avez publié notamment il n'y a pas longtemps une sociologie de Saint-Étienne qui sera peut-être évoquée dans la conférence d'aujourd'hui, qui traite justement de ces villes en décroissance, à la fois au niveau démographique, industriel, qui souffrent de stigmatisation. Et vous montrez dans ce bouquin que finalement tout est beaucoup plus compliqué, comme d'habitude, et qu'à partir de cette décroissance, finalement se développent des stratégies de la part des populations pour pouvoir créer un nouveau cadre plus agréable, plus urbain, dans les marges. Mais donc, finalement, c'est ce que sûrement vous allez nous proposer aujourd'hui. Je vous remercie.
Merci.
Merci beaucoup pour cette présentation. Bon, Jean-Baptiste,
Je crois qu'elle ne marche pas. Ah oui.
Si. Oui. Je vais l'approcher, c'est peut-être ça. Ouais, merci beaucoup pour la présentation. Donc Jean-Baptiste a déjà presque tout dit, presque résumé notre communication. On voulait pour commencer vous remercier pour cette invitation. Et puis, puisque le colloque arrive à son terme, vous dire qu'on a été vraiment ravis d'y participer, que c'était vraiment un colloque très riche sur le fond et puis aussi très convivial. On a été super bien accueillis, donc merci beaucoup. Au nom de, sans doute, tous ceux et toutes celles qui ont participé à ce colloque. Donc, avec Christelle, on va vous parler effectivement du cas de Saint-Étienne, avec cette communication qu'on a intitulée « Habiter la ville en décroissance, prendre ou reprendre le pouvoir sur la production urbaine ». Alors, peut-être la question qui s'impose pour commencer, c'est la suivante. Hein, pourquoi donc vous parler de Saint-Étienne dans un colloque qui se focalise sur les villes petites et moyennes? Oui, Saint-Étienne, c'est une grande ville. C'est une ville qui compte aujourd'hui 174 000 habitants. Donc on est loin de la catégorie des 10 000 à 100 000 qui a été évoquée par Philippe Estève ce matin. Donc c'est une grande ville. Alors pour autant, il nous semble qu'il y a trois raisons pour lesquelles ça peut être intéressant d'aller faire ce petit détour par le cas de Saint-Étienne. La première raison, c'est effectivement c'est ce qu'a dit Jean-Baptiste, c'est-à-dire que Saint-Étienne, c'est une ville grande, mais de moins en moins grande. Alors, qui s'est stabilisée démographiquement depuis quelques années, mais c'est quand même une ville qui a perdu pas moins de 50 000 habitants en l'espace d'une cinquantaine d'années. Donc c'est vraiment un processus de décroissance urbaine considérable, puisque le point culminant au niveau démographique, c'était 1968. En 1968, la ville comptait 223 000 habitants. Elle est descendue à quasiment 170 000, et donc aujourd'hui, on est à environ 174 000. Deuxième raison, à l'ombre des métropoles, Saint-Étienne est bien une ville, une grande ville, mais une ville qui se développe à l'ombre d'une métropole, puisque Lyon est à 60 km. Donc pas moins que la deuxième agglomération française dont l'ombre plane sur Saint-Étienne. Et la décroissance urbaine de Saint-Étienne, elle est liée à différents facteurs. On retrouve des facteurs classiques, évidemment la désindustrialisation, la périurbanisation, les politiques d'austérité qui ont été conduites, en particulier depuis les années 2000. Mais c'est vrai que l'ombre de Lyon est également un facteur qui a fragilisé certaines dimensions de l'économie stéphanoise. Donc voilà, on espère vous avoir un peu convaincu. Et puis il y a une troisième raison, qui est que Saint-Étienne a beau être une grande ville, c'est une ville qui est souvent perçue en fait comme une ville moins grande qu'elle n'est, qui est parfois perçue comme une ville moyenne. Ce qui nous renvoie aussi à des, justement à des dimensions symboliques qui ont été abordées dans d'autres présentations depuis le début du colloque. Saint-Étienne est une ville engluée dans des représentations plutôt négatives. Et ça se traduit aussi par un certain syndrome d'invisibilité. Cette ville n'est pas tout à fait reconnue, en tout cas il nous semble, comme une grande ville à l'échelle nationale. Il est très peu question de Saint-Étienne dans les médias, par exemple. Or, circonstances exceptionnelles comme celles qu'on peut connaître depuis quelques semaines avec la grande affaire de chantage politique à Saint-Étienne. Donc voilà un peu des raisons, il nous semble, de se décaler un petit peu et de parler du cas stéphanois. Alors, ce cas stéphanois, on va l'aborder à partir d'une question, donc, qui est la question de recherche centrale d'un projet ANR auquel nous avons participé avec Christelle, l'ANR Altergrowth, donc, qui a été coordonné par trois collègues, Vincent Béal, Max Rousseau et Nicolas Cauchy-Duval. Et donc, la question qui orientait ce projet de recherche, c'est la suivante. Hein. Est-ce que les contextes de décroissance urbaine, qui correspondent en général à des villes qui sont délaissées par les logiques du capitalisme, jusqu'à un certain point, bien évidemment, est-ce qu'ils constituent des terreaux favorables à l'émergence de stratégies urbaines qu'on pourrait qualifier d'alternatives? Alors, qu'est-ce qu'on entend par stratégie urbaine alternative? On entend par là des stratégies municipales qui cherchent à organiser le développement urbain en s'éloignant des canons de l'entrepreneurialisme, en s'éloignant des stratégies d'attractivité dont on a aussi largement parlé depuis le début du colloque. Alors, un mot rapide sur la façon dont on a travaillé. Donc, on a mené une enquête à Saint-Étienne avec Christelle. Une enquête qui a reposé principalement sur une campagne d'entretien avec deux grandes catégories d'acteurs. On a plutôt commencé par des acteurs politiques et institutionnels locaux, à la fois élus et techniciens. Et puis, dans un deuxième temps, on s'est plutôt orienté vers des acteurs associatifs, militants, en tout cas engagés dans tout un ensemble de mobilisations dans la ville. Et ceci sur un arrière-plan qui est celui d'un travail effectivement plus large qu'on a fait sur la sociologie de la ville, sur les recompositions à la fois sociales et spatiales qui affectent Saint-Étienne, avec également des éléments, des approches plus quantitatives dans le cadre de ce petit livre, ce petit Sociologie de Saint-Étienne qui a été évoqué tout à l'heure. Alors, donc partant de cette question, menant cette enquête sur Saint-Étienne, nous avons été amenés à faire des constats, principalement deux. Premier constat, l'hypothèse selon laquelle ces contextes de décroissance urbaine seraient des terreaux favorables à l'émergence de stratégies urbaines alternatives cède très vite lorsqu'on analyse ce qui se passe à Saint-Étienne. Pourquoi ? Parce qu'on trouve des stratégies municipales qui sont très classiques, qui sont des stratégies largement entrepreneuriales, inscrites dans le paradigme de l'attractivité. Vous avez peut-être entendu parler de Saint-Étienne comme la capitale du design. Cette stratégie d'image autour du design, elle se met en place à partir des années 90-2000, sous la municipalité de Michel Thiolière, donc maire de droite, qui arrive à Saint-Étienne en 1994 et qui va rester maire jusqu'en 2008. Et cette stratégie, elle a été poursuivie malgré deux alternances par la suite. Donc, première alternance en 2008, Maurice Vincent, Parti socialiste, devient maire. Et puis, deuxième alternance en 2014. Donc, Gaël Perdriaux, désormais célèbre maire de Saint-Étienne, les Républicains, arrive au pouvoir et va poursuivre également cette stratégie. Donc, ça, c'est le premier constat. Et le deuxième constat, c'est que ce qu'on peut aussi observer, c'est que dans l'ombre de cette stratégie urbaine entrepreneuriale, il y a un certain nombre de collectifs d'habitants, de collectifs militants qui cherchent à construire des alternatives, qui cherchent à construire autre chose. Alors ceci souvent loin des quartiers qui sont désignés par la stratégie municipale comme les quartiers stratégiques, dans le cadre du projet urbain. Il s'agit d'actions qui sont portées par certains habitants, qui se veulent orienter vers les habitants, encore là, comme on dit, dans les contextes de villes en décroissance. Et il s'agit notamment d'un certain nombre d'actions qui visent à faire quelque chose face à l'omniprésence des espaces vacants, à l'omniprésence du vide dans ce contexte de ville en décroissance. Alors, tout ça nous a amené à déplacer finalement nos questions initiales et à poser les trois questions suivantes, donc, sur lesquelles nous allons revenir dans cette présentation. La première, c'est tout simplement, qu'est-ce que c'est qu'habiter une ville en décroissance? On va revenir sur cette question, finalement, d'espace vécu, hein, de rapport, d'expérience sensible de l'habité. Deuxième question, de quelles ressources et de quels obstacles spécifiques est-ce que ces villes en décroissance sont porteuses pour le développement d'actions qui sont alternatives? Et puis, troisième question, quelle est la capacité effective des acteurs qui portent ces actions à reprendre réellement le pouvoir sur la production urbaine et à construire le droit à la ville, si on prend au sérieux ce qu'Henri Lefebvre entend par là, c'est-à-dire produire de nouveaux usages, hein, de nouvelles, se réapproprier les valeurs d'usage dans la ville, avoir le pouvoir de décider de ce qu'on fait en tant qu'habitant, des espaces urbains et des valeurs d'usage qui sont construites. Et donc, effectivement, ces quelques réflexions qu'on va vous proposer, elles doivent beaucoup à des collectifs de recherche auxquels nous avons participé et qui ont abouti ces derniers temps à différentes publications. Et donc, il y a l'ouvrage « Déclin urbain » qui est l'ouvrage final de l'ANR Altergross. Un autre livre qui vient de sortir début 2022 qui s'appelle « Déconstruire la ville, les villes en décroissance, laboratoire d'une production urbaine alternative ». Et puis donc le Sociologie de Saint-Étienne qu'on a coécrit avec Vincent Béal, Nicolas Cauchy-Duval et Georges Guay. Donc pour commencer par cette première question, qu'est-ce que c'est qu'habiter la ville en décroissance? En quoi est-ce que c'est une expérience sensible singulière? Alors, deux petites choses, un peu en préambule de ce point, très rapidement. D'abord, rappeler que habiter la ville en décroissance, c'est faire partie d'une société urbaine qui a des traits spécifiques. Pourquoi? Eh bien parce que la décroissance urbaine est le fruit de mobilités résidentielles qui sont sélectives. Et donc, ces mobilités résidentielles qui touchent certaines catégories de population, elles vont aboutir à des profils sociodémographiques qui sont relativement marqués dans ces villes en décroissance. Alors, sans vouloir complètement écraser la diversité qu'il peut y avoir au sein de cette catégorie même de villes en décroissance. Mais on va trouver à Saint-Étienne ce qu'on trouve dans de nombreuses villes qui connaissent ces processus de décroissance, à savoir le vieillissement, dont on vient de parler tout à l'heure, le creusement de certaines tranches d'âge, en particulier les 20-40 ans, la paupérisation. À Saint-Étienne, on peut dire que finalement, ce qui se joue à travers le processus de décroissance urbaine, alors c'est bien sûr la perte de population, mais c'est avant tout le départ vers des communes périphériques, des classes moyennes et supérieures, racisées comme blanches. Deuxième petite remarque pour commencer ce point. À Saint-Étienne, comme dans la plupart des villes en décroissance, on observe des dynamiques spécifiques du marché qui vont affecter la ville dans sa matérialité, des dynamiques qui peuvent être objectivées. Alors, c'est la détente du marché foncier et immobilier, c'est l'augmentation de la vacance des logements, et ceci dans le parc privé, mais aussi dans le parc social, la dégradation de l'habitat, le développement de friches. Donc voilà, deux remarques un peu préalables, mais ce qu'on voudrait développer un peu plus ici, donc, c'est cette question de, finalement, qu'est-ce que c'est que l'expérience quotidienne sensible de l'habiter dans ces villes? À partir de ce que notre enquête nous permet d'en dire, c'est-à-dire finalement à partir d'éléments qu'il faudrait clairement approfondir. Puisque, comme nous l'avons dit au départ, nous n'avons pas fait d'enquête auprès de ce qu'on pourrait appeler les habitants ordinaires. Donc, ceci serait à approfondir. Alors, néanmoins, ce qu'on a retenu de cette enquête, c'est qu'il y a quatre dimensions au moins qui font partie de cette expérience sensible de ce qu'est habiter Saint-Étienne en tant que ville en décroissance. Alors, la première dimension, c'est l'expérience sensible du vide. Quelque chose qui revient souvent dans les propos des acteurs locaux ou d'habitants. Alors, juste un exemple, un collectif de théâtre, le collectif X, a mené un projet en 2015 dans un quartier de Saint-Étienne qui est marqué par le déclin, le quartier du Soleil. Ce collectif a demandé à des habitants de s'exprimer sur la ville, de répondre à la question « Que sera Saint-Étienne dans 50 ans ?» Et un enfant interrogé a répondu « Dans 50 ans, la ville aura disparu. » Et c'est quelque chose qui se retrouve bien souvent dans des propos d'habitants. C'est quelque chose, évidemment, qui renvoie aussi à des choses qu'on peut objectiver à travers l'évolution des taux de vacances, des logements, qui permettent aussi d'observer des formes de concentration très fortes sur certains îlots ou sur certaines rues de cette vacance des logements, donc qui la rend particulièrement visible dans certains sous-espaces urbains. C'est aussi le taux de vacance des locaux d'activité, hein, des rez-de-chaussée. Alors, deuxième dimension qui est frappante, qui peut paraître évidente, mais c'est important, il nous semble de la noter, c'est que habiter dans une ville en décroissance, c'est aussi évoluer bien souvent dans un paysage urbain qui est marqué par un bâti qui est dégradé, des espaces qui sont en déshérence. Alors là aussi, c'est très variable en fonction de là où on déambule dans la ville ou là où on habite. Mais c'est particulièrement net dans ce qu'on pourrait appeler les interstices, les secteurs de la ville justement qui échappent à ce que la stratégie municipale identifie comme les quartiers porteurs, les quartiers stratégiques à partir desquels le ruissellement pourrait opérer. Troisième chose qui nous paraît importante, troisième dimension, c'est le fait qu'il y a une perception d'un changement du peuplement de la ville et que cette perception est associée à une perception du déclassement à la fois social et ethno-racial de la ville. On l'a déjà dit tout à l'heure, mais c'est vraiment un point important. Dans le fond, à travers la décroissance urbaine, ce qui s'est joué, c'est que ce sont les groupes sociaux les mieux positionnés, à la fois dans les rapports de race et de classe, qui sont partis, hein, qui ont quitté la ville-centre pour s'installer dans des communes périphériques plus valorisées, notamment les communes de la plaine du Forêt, qui sont très valorisées. Et donc, l'expérience sensible de certaines catégories d'habitants va se polariser pas tant sur le vide que finalement sur ce changement du peuplement, à la fois social et ethno-racial, particulièrement perceptible dans certains quartiers, certains espaces de la ville. Alors, ça se traduit par le discours. D'autres communications depuis le début du colloque ont rapporté ce discours autour du « c'était mieux avant ». Et notamment ces discours autour, par exemple, de la kebabisation de certaines rues, de certains espaces. Et donc, finalement, ça nous renvoie à deux expériences différentes, évidemment, en fonction de comment est-ce qu'un habitant se situe, hein, se positionne dans les rapports sociaux. Pour certains habitants, c'est l'expérience de la nostalgie, l'expérience d'un sentiment de perte, de ce qu'a été l'identité de la ville. Et puis, ben, pour d'autres habitants, bien sûr, c'est plutôt l'expérience de la stigmatisation, c'est l'expérience du racisme. Et puis, dernière dimension qui nous semble importante, c'est le fait que vivre dans une ville en décroissance, c'est vivre dans une ville qui est stigmatisée. Et c'est quelque part intériorisé ce stigmate spatial qui, finalement, doit être endossé par toute la population, là, pour le coup. Quelle que soit la façon dont on s'inscrit dans les rapports sociaux, dans la société urbaine, on est frappé du stigmate d'être stéphanois ou d'être stéphanoise. Alors, pour donner simplement un exemple... mais il y en aurait plein d'autres. En 2014, il y a eu un article dans le journal du Monde qui a fait grand bruit à Saint-Étienne, puisqu'il renvoyait une vision complètement misérabiliste de la ville, avec un titre qui jouait sur l'histoire, qui renvoyait à nouveau Saint-Étienne à son passé minier, à Saint-Étienne, le centre-ville miné par la pauvreté. Donc voilà, le ciel est bas, mais l'impression de grisaille presque poisseuse ne vient pas de là. Ce sont les immeubles délabrés qui donnent le bourdon, etc., etc. Allez lire l'article, ça vaut la peine. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a eu beaucoup de contestations, de résistance à cet article au niveau local. Pour prendre simplement un exemple, au Chaudron, donc au lieu de... pour le coup, valorisant, on va dire, enfin, ça dépend des jours et des années de Saint-Étienne, des supporters de la SSE avaient déployé une banderole sur laquelle était écrit « Descends dans le taudis, on va t'apprendre à refaire le monde ». Et voilà, il y a eu énormément de... Enfin, il y a eu toute une affaire locale autour de cet article du Monde, et c'est très révélateur des enjeux symboliques dans lesquels une ville en décroissance peut se trouver embourbée. Cela dit, en fait, là, bon, pour l'instant, on a insisté sur des dimensions qui peuvent être des dimensions négatives, on va dire, de l'expérience sensible de ce qu'est habiter une ville en décroissance, à partir du cas Stéphano en tout cas. Mais ce qui nous semble aussi important de noter, c'est que ces dimensions négatives sont loin de résumer l'expérience de l'habiter à Saint-Étienne et sans doute dans d'autres villes en décroissance. ce que nous allons aborder, alors de façon un peu indirecte, dans le deuxième point de notre présentation, donc dans lequel nous allons plutôt insister sur la question des ressources et des obstacles spécifiques que l'on rencontre dans ces villes en décroissance pour le développement d'actions alternatives. Mais on va retrouver donc ici des questions qui rejoignent celles de l'expérience de l'habité. Pour commencer par les ressources, alors ce qui est frappant, c'est que finalement, on se rend vite compte que le contexte de décroissance urbaine, il est vécu par certaines catégories d'habitants comme offrant une expérience positive de l'habiter par certains aspects, et aussi comme offrant des opportunités pour donc développer des expériences urbaines alternatives, dans le sens où on l'a défini rapidement en introduction. Et par exemple, on a rencontré des acteurs qui parlent avec humour de la Silicose Valley au sujet de Saint-Étienne. Alors, pour ces acteurs, finalement, il y a toute une série donc, d'opportunités, de ressources qu'apporte ce contexte de décroissance. Une première ressource, et une ressource majeure, c'est le faible coût de la vie. À la fois le faible coût de la vie en général et le faible coût du logement, plus particulièrement. Alors tout ça se retrouve aussi lorsqu'on regarde des indicateurs objectifs, et notamment si on regarde l'évolution des prix de l'immobilier, qu'on compare à d'autres villes. Bon, par exemple, on peut voir qu'à Saint-Étienne, aujourd'hui, les prix de l'immobilier sont 4 fois moins élevés qu'à Lyon, qui se trouve donc à 60 km. D'ailleurs, au milieu des années 2000, les prix à Saint-Étienne étaient deux fois moins élevés qu'à Lyon. Donc, il y a eu un décrochage en plus, très net, par rapport au marché de l'immobilier lyonnais. Et puis, d'autres ressources qui sont pointées. L'une d'elles, c'est la disponibilité d'espace. Disponibilité de nombreux espaces. On parlait des rez-de-chaussée, on va y revenir tout à l'heure, de rez-de-chaussée vacants, des espaces d'accès relativement facile, qui sont assez peu coûteux. Si on veut mener des actions associatives, culturelles, artistiques, il est relativement facile d'accéder à des espaces, même si il faut faire attention, beaucoup d'espaces vacants, ça ne veut pas forcément dire beaucoup d'espaces disponibles, puisqu'il peut y avoir un certain nombre d'obstacles qui empêchent une disponibilité totale de l'ensemble de ces vacants. Autre ressource, c'est l'existence de ce que certains des acteurs qu'on a rencontrés appellent des failles, des interstices urbains. Donc ces friches qui sont relativement finalement peu contrôlées, qui font l'objet d'un contrôle à la fois public ou privé relativement faible, donc des interstices qu'il est possible pour un certain nombre d'acteurs qui le souhaitent d'investir. C'est aussi la relative attention des acteurs publics, des acteurs institutionnels à l'égard des initiatives des habitants, et l'une des raisons à cela, c'est le fait que ces acteurs politiques, ces institutions, elles ont peu de ressources elles-mêmes. Et notamment, on en parlait ce matin, c'est toute la question des ressources fiscales qui sont affaiblies aussi. L'une des difficultés que rencontrent les villes en décroissance, c'est aussi la faiblesse des ressources fiscales. Donc, il peut y avoir d'autant plus d'intérêt des acteurs institutionnels pour s'appuyer sur les initiatives des habitants, des associations, etc. Tout un ensemble d'acteurs habitants ou acteurs mobilisés valorise aussi beaucoup le brassage, le brassage relatif, mais néanmoins le brassage social, ethno-racial, culturel, qui peut exister dans les espaces centraux et péricentraux de la ville. Et puis, autre élément qui revient très souvent, c'est des liens d'interconnaissance plutôt forts, qui sont favorisés par la taille de la ville. Alors, grande ville, mais bon, pas si grande que ça. Donc, ce qui favorise des formes d'imbrication de différents réseaux militants, culturels, etc. Et puis, dernière chose en ce qui concerne ces ressources, ce qu'on voit aussi, c'est que on a affaire à des recompositions, des mobilisations urbaines dans ces villes, dans une ville comme Saint-Étienne. Et finalement, ce qu'on observe, c'est une forme d'hybridation de différents types de différentes formes d'engagement, de différents types de militants aussi. Et cela se voit bien autour de certaines amicales de quartier, par exemple, où on voit comment s'hybrident, on pourrait dire, deux mondes. D'un côté, le monde des vieux militants, pour le dire vite, qui sont plutôt issus, héritiers du militantisme ouvrier, des grandes structures qui ont encadré la mobilisation de la classe ouvrière, dont le Parti communiste, par exemple. Et puis, de l'autre côté, ce qu'on pourrait appeler des nouveaux militants. Désolée d'aller vite dans ces catégories, il y aurait évidemment beaucoup de choses à préciser, qui revendiquent plutôt d'autres façons de s'engager dans la ville, et qui sont très, très attentifs à la question de l'ancrage, justement, dans le quartier, dans la ville, qui cherchent à relier leur forme d'engagement à l'espace local, et qui valorise ce que Lefebvre peut appeler les utopies concrètes, c'est-à-dire l'idée de faire des choses ici, maintenant, dans son environnement proche, avec les personnes qui sont là. Et puis on voit aussi que les imaginaires urbains qui sont propres à la ville anciennement industrielle, à la ville ouvrière, fonctionnent comme une ressource symbolique pour une partie de ces personnes qui se mobilisent dans différentes initiatives dans la ville. Ce que d'autres sociologues stéphanois ou passés par Saint-Étienne, comme Michel Rottenberg et Corinne Védrine, ont pu montrer dans leurs travaux également. Donc ça, c'est pour les ressources, et il y a aussi des obstacles, et Christelle va vous les présenter.
Donc voilà, il m'appartient de nous enfoncer en division 2, là, pour le coup, en évoquant les obstacles au développement de ces nattes alternatives dont Valérie a donné la logique. C'est une manière de reprendre des choses qui ont déjà été dites et puis d'en donner de nouvelles. Alors là, je ne vais rien apprendre, ce sont des rappels par rapport à ce qu'on a entendu ces derniers jours. Parmi ces obstacles, il y a des politiques publiques de manière globale, donc des stratégies et des logiques d'action qui sont ancrées quand même dans le paradigme dominant des politiques urbaines d'attractivité. Alors même si... bien sûr, on peut discuter des cibles et des publics de cette attractivité. En tout cas, des politiques nationales résolument favorables aux métropoles. Alors, ça va aussi un peu vite, ça se discute, et Laurent Davy le fait particulièrement bien. Mais en tout cas, dans une prégnance, une domination de l'injonction métropolitaine, ça, je crois qu'on peut être d'accord là-dessus. Et puis, même si existe un tournant récent dans la recherche et dans les politiques publiques en direction des villes petites et moyennes. On a entendu pendant le colloque des dispositifs consacrés au centre-bourg, Action Cœur de Ville et autres petites villes de demain, par exemple. Localement, Valérie l'a évoqué tout à l'heure, ce sont des politiques locales d'attractivité en direction des classe moyenne supérieure, des activités économiques contemporaines liées au design et en tout cas ou aux technologies de manière globale, qui sont bien ancrées depuis les années 1990. Donc je ne vais pas y revenir, si ce n'est que de mettre en exergue le fait que ces politiques urbaines d'attractivité n'ont pas vraiment changé malgré les couleurs politiques des différentes municipalités, même si on peut noter que sous le mandat, le deuxième mandat en cours de Gaëlle Perdriau, il y a eu quand même une forme de durcissement de ces politiques d'attractivité qui ont été plus agressives, ou en tout cas plus agressives, on peut le dire comme ça, dans la communication, qui se sont aussi appuyées sur des préceptes qui ont fonctionné sans doute davantage comme des slogans que comme des réalités dans les politiques urbaines, mais pas de logement social, par exemple. C'est quelque chose qui a été porté fortement au début de son mandat. Donc, jeu de représentation, y compris bien sûr pour les habitants, le logement social étant toujours, mais à Saint-Étienne on pourrait en discuter largement, assimilé à des logements pour les plus pauvres, même si la réalité des stratégies urbaines n'est pas celle-ci. Voilà, et puis quelque chose qui a été évoqué aussi ce matin par Philippe Esteb, c'est-à-dire la prégnance là aussi d'un paradigme qui est développementaliste, on veut dire ça comme ça, hein, pour les élus, la valeur, la démonstration de leur action, c'est bien dans la construction ou beaucoup plus récemment dans la démolition, avec l'idée de qu'avec ces démolitions, eh bien, on assèche le marché pour des jours meilleurs à venir. Donc des obstacles qui sont aussi liés à la capacité d'action locale et aux modalités de ce gouvernement. Alors là, je vais aller un peu vite. Des outils, des dispositifs qui sont mal adaptés au contexte de décroissance de Saint-Étienne. Alors deux exemples, parce qu'on pourrait aussi aller en citer d'autres, mais vous évoquez avec vous la convention, le conventionnement avec l'ANRU, donc qui a été signé pour le premier pour la première de ces conventions en 2005, et qui, face à la situation de décroissance, n'a absolument pas négocié cette règle, ce dogme de l'ANRU qui était celui du 1 pour 1, même si dans la réalité, les objectifs n'ont pas été tenus, et la deuxième convention a, elle, davantage négocié cette règle, donc qui demandait, je vous le rappelle, de construire un logement pour un logement démoli. Or, les besoins dans le parc social stéphanois ne sont pas seulement là, hein, même si la construction n'est pas évacuée, bien sûr. Et puis, en 2007, la création d'un établissement public d'aménagement. Je n'ai pas bien le temps de développer les logiques qui sous-tendent cet outil-là, mais le PA de Saint-Étienne, donc, qui met en œuvre des projets qui sont sous-tendus par des logiques d'attractivité et de développement. Hein, un quartier d'affaires autour de la gare, un quartier créatif autour de l'ancienne manufacture d'armes, manufacture nationale d'armes de Saint-Étienne. Des obstacles qui sont aussi ceux de ressources limitées pour la ville, pour aussi la métropole, donc Saint-Étienne Métropole, qui est devenue une métropole au sens institutionnel du terme en 2018. Donc ça passe par des ressources fiscales et budgétaires qui sont relativement faibles. Ça revient aussi à la discussion qui a eu lieu ce matin donc sur la base des dotations des collectivités territoriales. Bien sûr, un décalage, donc Valérie a bien dit que Saint-Étienne regagnait des habitants, et dans la réalité, c'est bien valorisé comme tel par les acteurs politiques notamment. Il n'en reste pas moins que la décroissance, l'inertie de la décroissance ou des effets de la décroissance, notamment en termes d'équipement, des écoles qui sont à regrouper, à démolir, des réseaux aussi qui sont entretenir et qui sont ceux d'une ville de 220 000 habitants plutôt, eh bien, voilà, érode aussi ses faibles ressources. Une autre dimension de ces ressources limitées tient aussi à la relativement faible capacité d'ingénierie aussi, donc à la fois à la ville de Saint-Étienne et à la métropole. Je m'excuse du caractère un petit peu rude de ce constat qu'il faudrait nuancer, mais on y reviendra éventuellement dans les questions, et des formes d'étranglement hein, de l'action par ses capacités, par ses contraintes financières aussi. Voilà. Et puis, un gouvernement local, donc là aussi, ça apparaît, mais on peut largement y revenir, un gouvernement local qui privilégie plutôt les dispositifs, les labels, avec une attention limitée hein, aux acteurs alternatifs et aux processus qu'ils mettent en œuvre, et qui a souvent des réponses en termes de dispositifs existants. Comment est-ce qu'on peut discuter avec les élus et les techniciens d'agriculture urbaine? Ben oui, bien sûr, puisqu'ils ont déjà, dans tel quartier politique de la ville, un dispositif cité fertile, par exemple. Donc des obstacles, on espère vous en avoir montré un certain nombre, et puis bon, des obstacles qu'il faut peut-être nuancer, donc d'une part parce que depuis 5-6 ans maintenant, le refoulement de la démolition a été un peu dépassé. Vous le voyez dans ce journal municipal qui doit dater du printemps 2016. On démolit, point d'exclamation. Donc c'est considéré aujourd'hui comme quelque chose de plus positif. Hein. La ville communique sur ces démolitions, sur leur ampleur en termes chiffrés, 20 hectares depuis 5 ans, tant de mètres carrés cette année, etc. Voilà, donc un recours à la démolition qui est vu comme une adaptation de la ville à sa nouvelle taille, qui est désormais banalisée, voire valorisée, je vous l'ai dit. Donc avec des campagnes de publicité qu'on trouvera plus ou moins de bon goût, comme celle-ci, par exemple. Voilà, qui a quand même une forme de violence. Hein. Je ne sais pas si elle est seulement symbolique, mais sans doute réelle pour les habitants qui sont encore dans ces immeubles qui vont être démolis. Des constats, des expériences qui relativisent ces constats précédents, puisque cette démolition qui est aujourd'hui assumée, eh bien, elle est quand même conçue davantage comme une étape dans un assèchement du marché, plutôt qu'une nouvelle manière de faire la ville, plutôt que d'opérer ce que les collègues architectes appellent la déconstruction, c'est-à-dire assumer le fait de démolir sans reconstruire, mais pour améliorer la qualité, la condition urbaine, la qualité de vie des habitants déjà là. Donc vous avez sous les yeux un îlot qui a été entièrement démoli, dont l'architecte dit qu'il est jardiné, mais dont les élus mettent bien en avant le fait qu'il est vide, certes un peu jardiné, mais surtout en attente de projets immobiliers. Et puis un deuxième exemple qui est en cours en ce moment, qui est la démolition d'un secteur, d'un îlot en centre-ville, en toute proximité de l'hôtel de ville, d'un ancien cinéma vide depuis des années. Donc une expérience intéressante parce que celle-ci est bien destinée à apporter une forme de qualité urbaine. Donc ne pensez pas que Valérie et moi confondions une projection d'architecte et d'urbanisme avec une photo de la réalité ou une prospective, hein, mais effectivement c'est un jardin qui est prévu sur cet îlot, avec des questions que nous tenons à poser, hein, pour qui, pourquoi ce jardin, qui est plutôt une bonne nouvelle, mais qui est peut-être aussi à Saint-Étienne à replacer dans un contexte d'éviction, hein, des indésirables du centre-ville, avec une présence policière, notamment à l'égard des SDF, qui est extrêmement importante. Voilà, et puis des expériences qui relativisent aussi ces constats, puisque on observe une politique récente municipale, hein, en faveur des rez-de-chaussée vacants, avec une attention récente à l'action d'une association dont on va vous reparler tout de suite. Donc c'est cette attention à la vacance des rez-de-chaussée commerciaux. 5 minutes. Je vais aller beaucoup plus vite. A donné lieu à un certain nombre d'actions, dont la création d'une foncière en juin 2020, dont la recension, donc à une instrumentation, hein, une mise à l'agenda de cette question des rez-de-chaussée commerciaux vacants par les acteurs publics. Pour le coup, la troisième partie initialement annoncée sur la capacité effective d'initiative alternative à transformer les logiques de la production urbaine. Donc le choix que l'on a fait, qui est déjà en train de nous grignoter tout notre temps, c'est de nous focaliser sur l'action d'une association qui s'appelle Rue du Développement Durable, qui a été créée en 2009 par des habitants d'un quartier péricentral, hein, qui est vraiment pas très loin de la place de l'hôtel de ville, créé par des habitants dont plutôt bien dotés en capitaux, en tout cas en capitaux sociaux et économiques relativement, mais sociaux et culturels, c'est très clair, en lien très fort avec l'amicale laïque du quartier et une foncière citoyenne. Une association qui constate que la vacance n'est pas synonyme de disponibilité et dont le projet est de mettre en lien des propriétaires, parfois absents ou relativement absents, et des porteurs de projets, en sécurisant en quelque sorte les relations des uns avec, avec les autres. Donc c'est une association qui a démarré donc en 2009 avec une forme d'investissement très, très concret, très réel, très physique des membres de cette association pour eh bien, affronter hein, la vacance et la remise en disponibilité de certains locaux vacants. C'est ce qui nous a fait rapprocher leur action de ce qui se passe dans d'autres villes en décroissance. On a en tête le travail de Keith, non, il s'appelle pas Keith, j'ai oublié, Schindler, en tout cas, qui a travaillé à Détroit, Seth Schindler, merci Valérie, et qui met en avant l'entrepreneurialisme courageux, le plucky entrepreneurialism donc de ses habitants qui eh bien, s'efforcent hein, de faire tenir debout leur environnement le plus proche. Voilà, un petit verbatim d'entretien sur le travail des chiens, de chiens mal payés où il faut être vachement opiniâtre pour eh bien, remettre ces locaux délaissés et dégradés en capacité d'accueillir des projets. Voilà. Et pour ces acteurs-là, en tout cas pour les membres de RDD, c'est très clairement le contexte de décroissance hein, qui est un moteur en soi des actions, des réflexions de ce groupe. En réaction aussi au discours des aménageurs, des grands aménageurs, je vais dire ça comme ça, en ayant en tête l'EPA, puisque eux, ils ont bien pour volonté d'abandonner ou en tout cas de mettre de côté au moins un temps ces idées de déclin, de déglingue et de regarder ce qui fonctionne, d'agir en partant des ressources existantes de ce quartier-là. Il faut que j'aille vite, donc je vous laisserai lire... une autre fois, les extraits d'entretien, et surtout d'être capable de lire ce qui est en train d'apparaître. Pour le coup, cette association s'est constituée, à notre sens, une réelle expertise, donc à la fois en termes de travaux purs et durs, j'ai envie de dire, sur les locaux vacants, mais aussi en termes de réflexion sur les logiques de production et d'aménagement de la ville, hein, et la manière dont... Et bien, cette ville de Saint-Étienne, les instruments et les acteurs de l'aménagement qu'elle se donne fonctionnent comme s'ils étaient dans une ville en pleine, en toute, dans une ville qui gagne, comme le dit Max Rousseau, de manière, pour le dire un peu rapidement. En tout cas, RDD, donc cette association et d'autres initiatives ont bien la volonté de mettre en place des actions non marchandes, en tout cas là, dans la plupart des cas, et de partir des besoins des habitants déjà là, des pratiques et des usages du quartier, ce qui nous paraît revenir, hein, constituer en tout cas un des fondements du droit à la ville tel que l'a défini Lefebvre, y compris en mettant en exergue l'urgence, la nécessité des transformations, des démarches et des instruments intellectuels d'approche des villes en décroissance. C'est la manière dont nous rapatrions les écrits de Lefebvre. Voilà, donc je ne développe pas plus. C'est une association qui a aujourd'hui voilà, vraiment réalisé une action conséquente en mettant, non seulement en réactivant les rez-de-chaussée, mais en mettant en lien les acteurs qui se sont installés dans ces rez-de-chaussée, donc en décuplant comme ceci son action et en ayant réintroduit dans le quartier une cinquantaine d'emplois à ce jour, ce qui est quand même suffisamment intéressant pour être mentionné avec une reconnaissance de cette expertise. RDD a été bénéficié d'un label Fabrique de territoire depuis 2019. Je m'arrête pas plus. Là, ce sont des images pour essayer d'illustrer un peu notre propos. Avec deux enjeux, nous semble-t-il, quelle capacité de cette association à étendre son terrain d'action qui est vraiment concentré sur un quartier de la ville. Eh bien, l'expérience en a été faite dans le cadre d'un marché de maîtrise d'œuvre en lien avec l'EPA de Saint-Étienne dont je vous parlais, sur un autre quartier, le quartier Saint-Roch, à ne pas confondre. Donc, c'est à la fois une forme de reconnaissance de l'expertise de RDD, une forme de reconnaissance aussi pour l'EPA du fait que ces actions dans les quartiers anciens n'étaient pas tout à fait couvertes de succès dans une ville qui semble résister hein, pour eux à la revalorisation du marché immobilier. Donc pour RDD et comme pour les autres acteurs de ce collectif hein, qui s'appelle Coproc, qui bénéficie donc de ce marché de maîtrise d'œuvre, il y a bien une double dimension dans cette intervention au profit de l'EPA, c'est leur expertise professionnelle, mais aussi une approche militante, puisqu'il y a bien une opportunité pour eux d'expérimenter des modalités alternatives de production urbaine. Voilà. Donc ces modalités alternatives, c'est de travailler dans une perspective bottom-up, c'est de relativiser les mécanismes marchands, c'est de travailler pour les habitants déjà là et pour les catégories populaires. Pour autant, sur ce projet-là, trois types d'obstacles. La dépendance du projet par rapport à l'EPA et à ses logiques d'action, développementaliste, disons-le comme ça un petit peu rapidement. C'est aussi le positionnement pardon, de la municipalité vis-à-vis du projet urbain de Saint-Roch avec un contrôle très fort sur les formes de la participation habitante que Coproc avait envie de renouveler. Et puis, une difficulté alors, dans laquelle, pour le coup, tous les acteurs sont pris hein, de prendre en charge aussi les tensions socio-ethniques qui sont réelles dans ce quartier et en retombant, pour le coup, à notre avis, dans les écueils tout à fait habituels et bien décrits des dispositifs de participation. Et puis, dernière question, une alternative jusqu'où obligation pour nous tout de même hein, de poser la question des effets de l'action de RDD et de son réseau d'acteurs donc des effets alors on ne peut pas introduire des relations de cause à effet entre la revitalisation de ces rez-de-chaussée et puis des évolutions sociodémographiques de ce quartier du Crêt de Roc hein, qui sont réelles. On constate une augmentation d'habitants, une augmentation aussi des niveaux de revenus sans que pour l'heure les habitants déjà là ne soient menacés. Mais force est de mettre en exergue aussi hein, là, la place prépondérante des jeunes diplômés, du supérieur, racisés comme blancs dans ce réseau-là. Et la mise en place donc, dans les locaux réactivés de services qui ne sont pas forcément accessibles à la majeure partie des habitants du quartier, même si certains, une cantine participative, une accorderie au sens d'échange de services, sont plutôt bien investis largement par les différentes catégories d'habitants du quartier. Et puis, ce qui nous paraît intéressant, c'est la vigilance propre hein, de ce réseau d'acteurs sur les effets de leur action. En conclusion, j'ai dépassé, hein, c'est clair, mais c'est Valérie qui a beaucoup... une expérience de l'habiter dans les villes en décroissance singulière. Alors, on opère cette montée en généralité adossée aux résultats du programme Alter Growth, hein, ça c'est assez clair, sachant qu'on est bien consciente qu'il y a d'autres dimensions à explorer dans cette expérience habitante, dans cette condition urbaine, que la simple confrontation au vide, à l'abandon, à la vacance. Hein, il y a Valérie et moi, par pratique de la ville, quelques idées en la matière, mais qui sont loin d'être systématisées pour l'instant. En tout cas, des initiatives alternatives pour lutter contre cette vacance et pour répondre aux besoins d'habitants qui sont, nous semble-t-il, relativement convaincantes, voilà, et qui, pour le coup... en relisant ce qu'on avait écrit en 2017 à propos de l'expérience de RDD et d'autres expériences alternatives dont on constatait le morcellement, ce que l'on peut se dire aujourd'hui en 2022, c'est d'observer presque la construction d'un acteur collectif, c'est-à-dire que par le biais d'une superstructure, si je peux dire ça comme ça, qui s'appelle la fabrique de la transition et qui travaille vraiment dans une logique de plaidoyer sur divers registres, la question de la réactivation des rez-de-chaussée, mais aussi la question de agricole et alimentaire, qui se dote d'une structure de dialogue avec les élus, avec enfin qui donne plutôt de l'espoir, je vais dire ça comme ça, en étant un peu normative et peut-être pas très chercheur sur ce coup-là. Et puis, une attention alors, des acteurs institutionnels à ces initiatives, on l'a dit, plutôt du côté des techniciens et une association qui reste, une attention pardon, qui reste limitée, sans portage politique. Philippe Estève, là aussi, en a nommé des facteurs qu'on reconnaît bien, hein, une difficulté pour les élus d'accepter la décroissance, un modèle de développement qui reste celui qu'on connaît, et pour le coup qui est loin de faire à Saint-Étienne de ces alternatives un éventuel nouveau référentiel d'attractivité, comme peuvent le faire certaines petites villes, hein, je pense à la ville du Teil, donc en Ardèche, il faudrait aussi développer là aussi, donc qui revendique ces projets alternatifs comme élément d'attractivité et qui une attractivité qui se traduit hein, en termes sociaux, démographiques, y compris avec des partenariats avec Villeurbanne, par exemple, de cette petite ville désindustrialisée et en décroissance, mais avec des effets, pour le coup, non négligeables sur les habitants déjà là. Gros dépassement, je vous prie de nous excuser.
Oui. Bon, vous êtes en plénière, on ne peut pas vous en vouloir.
Ah ouais. Oui, mais on n'est pas obligé de...
Non, mais c'est surtout que je pense qu'on va avoir plein de questions. Et non, mais t'inquiète pas, Lionel, je vais me... Ah bah oui. La patronne a une question.
Merci beaucoup pour votre présentation très riche. Moi, je me posais une question de la terminologie que vous employez, du coup... de la décroissance, en fait. Qu'est-ce qu'on fait de ce terme-là et voilà, parce qu'en fait, à vous entendre, je me disais, j'ai l'impression que c'est la décroissance au sens donc, d'un déclin accepté. C'est un peu comme ça aujourd'hui qu'on perçoit ce terme de décroissance urbaine. Hein. Mais en fait, il ne fait peut-être pas sens pour tous. On voit bien que les élus ont du mal peut-être à accepter ce déclin, en fait, et ne le traduisent pas comme... par le biais de la terminologie de la décroissance, qui est plutôt, voilà, on fait avec et on essaie de trouver des alternatives. Donc, qu'est-ce que vous faites de cette notion ? D'autant plus que l'ouvrage s'appelait « Déclin urbain », donc c'est intéressant.
Merci, oui, effectivement, question importante. Donc, il a fallu choisir entre déclin et décroissance, et le choix, visiblement, n'est pas facile, puisque nous avons participé à l'ouvrage « Déclin urbain ». Et pour autant, nous parlons de décroissance. Alors, c'est vrai que « déclin » est un mot quand même plutôt connoté négativement, de façon plus forte, il nous semble, que « décroissance ». Donc, pour ce qui nous concerne, on préfère parler de décroissance. Décroissance qui est multidimensionnelle. C'est vrai qu'on est parvenu sur la question de la définition. On est plutôt revenu et rapidement sur les facteurs de la décroissance, mais... on y met bien évidemment la dimension démographique qui est centrale, donc décroissance démographique. Cette décroissance démographique étant liée bien sûr à des reconfigurations de l'emploi, à des formes de décroissance aussi en tout cas de certains emplois, de certaines catégories d'emplois. Voilà donc dimension démographique, dimension économique. Effectivement tout ça est très compliqué à assumer pour les élus, c'est apparu dans différentes communications depuis le début du colloque. Et on le retrouve complètement à Saint-Étienne. La question du déclin est très difficile à endosser pour les élus qui sont encore beaucoup dans le mythe du rebond, y compris, par exemple, lors de la campagne municipale de 2014, donc quand l'actuel maire est devenu maire, il a fait campagne sur le thème de retrouver 200 000 habitants d'ici 2030. Donc voilà, l'indicateur démographique est vraiment, reste l'objectif de regagner des habitants reste quelque chose de central pour les élus. Et il y a vraiment, on touche un point très important là. Tant qu'il n'y aura pas une sorte de prise en charge politique et peut-être du déclin démographique, et peut-être une façon de simplement admettre ce déclin et de faire avec. Eh ben, ça sera difficile, effectivement, de changer de paradigme.
Pour compléter peut-être de manière, en se dégageant du cas de Saint-Étienne, ce que les collègues sociodémographes ont montré dans Donc dans le programme Alter Growth, ça a été aussi de dire ben, la décroissance, c'est une trajectoire. Effectivement, quand on prend d'une date à une date, ben, voilà, il y a 38% des aires urbaines en France qui ont décru entre, je ne me rappelle plus quel était le seuil bas de l'étude démographique, entre 90 et 2013, par exemple. Il n'en reste pas moins que, quand on regarde dans le détail et par période de recensement, ben, certaines ont d'abord gagné des habitants, puis perdu, certaines ont perdu des habitants, regagné, voilà, et que ça participe quand même de singularités locales qu'il faut regarder de près. Et puis peut-être pour compléter la réponse cette fois sur Saint-Étienne, je crois aussi que c'est aussi des recompositions de l'urbain. C'est banal de le dire, mais Valérie a évoqué périurbanisation. Donc voilà, ça, dès 85, un collègue géographe écrivait Saint-Étienne n'est plus dans Saint-Étienne, et pour un temps, la décroissance de la ville-centre a été compensée par la croissance de ses périphéries, hein, dans cette forme-là. Bon, sachant que Saint-Étienne et son aire urbaine sont quand même dans des dynamiques démographiques les plus faibles d'Auvergne-Rhône-Alpes, hein, soyons clairs aussi là-dessus. Mais ça, pour moi, ça fait aussi revenir à l'histoire, à la structuration, à l'urbanisation de ce territoire-là, dans lequel Saint-Étienne n'a jamais été une ville-centre, n'a jamais été non plus le centre de commandement d'une région industrielle complexe, dans lesquelles les centralités secondaires d'autres villes, dont vous ne connaissez à peine le nom, mais peu importe, moi non plus, je ne connaissais pas Xertigny il y a quelques jours, mais je suis ravie maintenant de connaître. Rive-de-Gier, Firminy étaient aussi des pôles industriels et urbains, tout à fait intéressants, et dont les acteurs économiques plutôt que politiques, mais économiques, avaient des relations avec le reste national ou avec le reste du monde qui ne passaient pas par Saint-Étienne. Donc, c'est aussi une réflexion sur ce fait métropolitain qu'on regarde aussi avec l'obligation pour les villes de commander de manière un peu unilatérale leur territoire de référence. Dans l'histoire, c'est déjà plus compliqué que ça pour Saint-Étienne. Je ne sais pas si j'ai été très claire, mais... Okay. Ouais.
Ça me fait courir aujourd'hui, c'est très bien. Merci beaucoup, merci vraiment pour cet exposé passionnant. Je voulais faire une remarque et peut-être vous poser une question. La remarque, c'est sur cette difficulté des élus locaux à accepter, alors quel que soit le nom qu'on lui donne, décroissance ou déclin, je pense que c'est encore plus difficile à accepter. Donc, peut-être que décroissance, c'est une façon de faire passer la pilule. Il me semble que dans la difficulté, il n'y a pas simplement une question fiscale, il n'y a pas simplement une question aussi, peut-être symbolique, de fierté, etc. Il y a aussi des questions techniques très concrètes. Vous l'avez mentionné à un moment donné. C'est-à-dire qu'on a des... Oui, mais qui sont essentielles. C'est-à-dire qu'on a des infrastructures urbaines pour 230 ou 240 000 habitants. Quand on se retrouve à 170 000 habitants, ces infrastructures, on les a sur les bras. Non seulement les équipements, mais aussi les réseaux et tout ça. Et y compris d'un point de vue purement technique, on sait bien que, par exemple, un réseau d'assainissement qui est calibré pour un certain volume de population, si on tombe en dessous du volume, il n'y a pas l'écoulement suffisant et il finit par devenir obsolète. Quoi. Voilà. Ouais. Donc il y a des coûts d'entretien, et ça c'est un vrai problème, me semble-t-il, dans les villes, c'est que la croissance des villes fonctionne par palier. Et chaque palier est quand même plus ou moins une espèce d'effet cliqué avec des investissements lourds qui font comme si le palier était atteint de manière définitive, pérenne, etc. Et ça devient très difficile de redescendre. Or, ce que vous montrez très bien, c'est que vivre en décroissance et vivre autrement en décroissance ou habiter autrement en décroissance peut consister, par certains côtés, à sortir de cette logique d'investissement de long terme pour produire de l'occupation, alors pas forcément temporaire ou éphémère, mais enfin quelque chose qui est dans un autre registre que l'investissement urbain de structuration de longue durée qui passe par les réseaux, etc. Et je trouve que là, bon, j'ai pas de réponse à cette tension-là, mais il me semble que c'est un des problèmes, me semble-t-il, qui fait que y a toujours une tension entre, au-delà même des questions idéologiques, quoi, il y a toujours une tension entre les initiatives de habiter autrement et les exigences des systèmes urbains tels que nous les avons conçus historiquement dans cette perspective de croissance.
Merci beaucoup. Bah, effectivement, ce sont des aspects qu'on n'a pas du tout eu le temps d'aborder, mais qui sont très importants aussi. Qui renvoie à différentes questions, en fait. Il y a la question de ce qu'on fait, effectivement, de ces infrastructures devenues surnuméraires, quelque part. Il y a la question de qui paye aussi. Par exemple, si on fait le choix de la démolition, ce qui peut être un choix judicieux dans certains contextes, une fois qu'on a admis que, par exemple, Saint-Étienne ne reviendrait peut-être pas, en tout cas d'ici dans les prochaines années, à 200 000 habitants, par exemple. Le choix de la démolition, c'est un choix qui peut sembler pertinent, mais la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Enfin, c'est d'abord qui paye, parce que c'est très coûteux, la démolition, et c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Et sur la question de qui paye, là aussi, je pense qu'on peut rebondir sur des questions qui ont été abordées, hein, plutôt dans le cadre du colloque et notamment ce matin, et notamment sur la dimension de la redistribution financière à cette échelle intercommunale. À nouveau, ce qu'on voit à Saint-Étienne, c'est que cette dimension intercommunale, elle est centrale, en fait, si on veut comprendre le processus de décroissance urbaine qui se joue en grande partie à cette échelle intercommunale, puisque beaucoup de communes périphériques ont grossi pendant que Saint-Étienne s'est vidé d'une partie de sa population. Donc, est-ce que ce n'est pas possible, par exemple, d'imaginer des systèmes de solidarité financière plus solides à l'échelle intercommunale ? Alors, voilà, avec les limites dont Christelle vient de parler, c'est-à-dire que la difficulté stéphanoise, c'est aussi l'inconsistance du gouvernement intercommunal, sa faiblesse, qui elle-même a pour origine qui a pour origine tout un contexte historique, en fait, de la façon dont s'est construit ce territoire de façon très composite avec plusieurs centralités. Donc, comment est-ce qu'on fait avec cette structure de territoire ? Et puis, alors, si on trouvait des solutions pour ça, une fois qu'on a démoli, qu'est-ce qu'on fait ? Et parce que ce vide, en fait, ce qui est super intéressant quand on travaille sur la décroissance urbaine, c'est qu'on se rend compte que le vide a une valeur. Que ce vide, qui est souvent perçu dans un premier temps comme un problème, en fait, il a une valeur importante, à condition d'en faire quelque chose. Et donc, en faire quelque chose pour qui ? À nouveau, c'est une question éminemment politique. Est-ce qu'on en fait quelque chose pour les habitants qui sont encore là ? Est-ce qu'on en fait plutôt quelque chose qui pourrait attirer les habitants désirables, ces classes moyennes, supérieures, qu'on veut voir revenir à Saint-Étienne ? Bon, le constat qu'on fait, en tout cas aujourd'hui, c'est que pour l'instant, donc effectivement, Christelle en a parlé, petit à petit, il y a un portage politique de la démolition, mais par contre, associé à l'idée qu'on est dans une logique de chercher à assécher le marché pour faire revenir les promoteurs privés, pour les faire revenir, pour construire des logements avant tout pour des classes sociales moyennes et supérieures. Voilà, donc c'est ça aussi qu'il s'agit de questionner, me semble.
Je peux compléter rapidement. sur les réseaux, il y a un collègue qui a travaillé sur ces questions-là en Allemagne, qui s'appelle Daniel Florentin, sur les réseaux d'eau. C'est très intéressant et moi je rêve vraiment d'avoir le temps ou un étudiant, une étudiante qui veulent bien travailler à objectiver effectivement ces coûts sur les réseaux, parce que je pense que ça serait vraiment quelque chose de très très intéressant. Il y a eu des travaux sur les réseaux d'eau de New York quand Manhattan se dépeuplait très 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 sévèrement dans les années 60-70. Il y a eu des coûts en termes de perte d'eau sur le réseau qui donnent aussi une autre vision, qui remettent en place ces systèmes urbains techniques dont vous parlez et qui constituent vraiment une dimension infrastructurelle intéressante. Il y a celle-ci, il y a aussi la question des associations et des structures sociales. dans la gestion de la décroissance à Saint-Étienne, quand la ville, quand cette ville bâtit pour accueillir la main d'œuvre, donc bâtie comme une ville de rapport, hein, à certains écarts, il y avait aussi une structuration par quartier qui comprenait très souvent une double structure sociale, l'amicale laïque, et puis quelque chose qui ressemblait davantage à un patronage ou une situation. Et ça, ce sont des héritages qui restent forts, qui sont des et que la ville se confronte aussi à la municipalité. Alors après, il y a beaucoup de politique, bien évidemment, là-dedans, mais il y a aussi beaucoup de structures sociales pour une ville de cette taille. Comment on fait ? Voilà. Comment on oblige, on accompagne les structures à se fédérer, ce sont des problèmes voilà, très, 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 très fondamentaux, je crois.
Je suis désolé.
Oui, bah je comprends.
Enfin, je suis désolé pour tout le monde. du coup, Elsa,
ah oui.
On vous remercie. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et puis, on peut partir sur un petit mot de clôture.
Non mais juste quand même que voilà, on ne se quitte pas de manière sauvage. Donc en tout cas, la conférence de Christelle et de Valérie clôture ce colloque scientifique. Et merci du coup à tous les conférenciers, toutes les conférencières, tous les communicants, toutes les communicantes. Hein. Je pense qu'on peut dire que ces échanges ont été très riches. Et donc il y aura bien sûr une suite. Ce sont nos sociologues urbains qui porteront la suite avec probablement des publications, une publication, mais vous serez tenus au courant. Je voudrais remercier aussi notre public, qui n'a pas été seulement constitué de nos étudiants, puisqu'on a eu un autre public qui s'est greffé effectivement à ce public-là, même si, je n'ose pas dire le mot, on doit encore travailler l'attractivité du FISO. Petit à petit, à force de faire des éditions, on commence quand même à être connu. Merci. Alors, je n'ai pas recité tous les partenaires. Vous savez que ce FISO est organisé en partenariat avec la Société d'émulation des Vosges. Donc, c'est une co-organisation. La Société d'émulation du département des Vosges et le laboratoire lorrain de sciences sociales. Je voudrais remercier particulièrement, même si ils sont partis, donc Virginie Vatelet, Christelle Lorrain, qui vous ont accueilli. Qui vous ont fait des ordres de mission, qui ont réservé des bus, qui ont fait des expositions avec nous, donc qui ont été sur tous les fronts. Donc merci beaucoup à elles. Ouais. Alors, je ne vais pas remercier tous les partenaires, tous les soutiens, mais pour le temps de ce colloque, je voudrais remercier le Centre des congrès et son personnel, à notre ingénieur de son, qui nous a accompagnés. Ces 3 jours de colloque. Le colloque scientifique est terminé, mais le FISO continue, puisque on a encore quelques activités. Alors, je remercie tous les participants, hein, puisque c'est vrai qu'on a eu pas mal d'événements culturels. Mais alors, ce soir, il y a encore du théâtre au théâtre municipal d'Épinal. Donc, l'entrée est gratuite. Donc, c'est la pièce Métropole. Il faut que je. À 7 heures. De fatigue avancée, il faut que je retrouve la page du programme. Mais voilà, Théâtre Métropole de Vincent Farras, mise en scène d'Arnaud Raboutet. Et donc, ça sera 20h30 au Théâtre Municipal. Donc, venez nombreux. Et nous terminerons le FISO par une table ronde d'acteurs politiques. Alors, il y a 8 intervenants. Alors, je ne vais pas tous les citer parce que je serai trop long. Notamment Mathieu Klein, président du Sillon Lorrain, maire de Nancy, président du Grand Nancy, Patrick Nardin, maire d'Épinal. Et alors, cette table ronde, elle sera aussi introduite par des étudiants de sociologie, donc qui vont avoir la lourde tâche d'intervenir pour nous dire qu'est-ce qui s'est raconté pendant ces 3 jours de colloque. Donc je remercie, j'espère que je ne vais pas me tromper dans les noms, Simon, Anna, Margot et Nelly. Voilà, et on va travailler avec elle tout à l'heure, avec Elsa, pour effectivement cette synthèse du colloque scientifique qui introduira la table ronde de demain. Ouais, je ne vais pas en dire plus parce qu'il y a un bus pour les étudiants à 17h30, il ne faudrait pas qu'ils le loupent. Et puis, à la prochaine édition. Voilà, merci à vous.